C'est parti pour la grande table. Il est midi sur France Culture. Et on commence avec vous, Antoine Mercier, et les titres.
Bonjour. Bonjour Olivia, bonjour à tous. Après les confidences du chef de l'État, des journalistes du Monde, notamment sur la justice, le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, s'interroge ce matin sur la volonté de François Hollande de se représenter en 2017. Analyse tout à l'heure avec Stéphane Robert. La Wallonie est en passe de faire capoter l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Le Parlement de Namur, qui est l'une des assemblées législatives de Belgique, doit en effet adopter dans les minutes qui viennent une résolution qui pourrait empêcher la ratification à l'échelle européenne de cet accord. On sera en ligne avec Quentin Dickinson. Et pendant ce temps, à Bruxelles, le président du Conseil, Donald Tusk, déclare qu'il est inutile de spéculer sur un Brexit en douceur et que la seule alternative au Brexit brutal, c'est pas de Brexit du tout. Explication avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazé. Après l'adoption par une commission de l'UNESCO d'un projet de résolution qui ne fait mention que des noms musulmans pour désigner ce que les Israéliens appellent le mont du Temple, le ministre israélien de l'éducation Naftali Bennett annonce ce matin la suspension par la commission israélienne de l'UNESCO de toutes ses activités professionnelles avec l'organisation internationale. On sera en ligne avec Daniel Tabor. Et puis notre journée, 3 mois après l'attentat du 14 juillet à Nice, 15 personnes blessées, toujours hospitalisées. On entendra Vincent Delomel-Desmarais, qui est secrétaire général de l'association des victimes de la promenade. Il décrit une ville encore en état de choc. L'invité de la séquence interview, le politologue Jérôme Sainte-Marie, avec qui on parlera notamment de ce débat hier sur les candidats à la primaire à droite. Voilà pour les titres. Olivia Gesbert, c'est à vous.
Merci Antoine, merci. On vous retrouve à midi et demi pour le journal en entier. Première partie de la grande table. Bonjour à tous, comme un vendredi flashback avec l'historien britannique Ian Kershaw, spécialiste du nazisme. Dans un ouvrage important, le biographe fameux d'Hitler revient sur ces 3 décennies qui ont fait basculer l'Europe dans la période la plus sombre de son histoire, 1914-1949, 2 guerres qui n'en font qu'une. Ce midi, avec Ian Kershaw et son livre « Somme, l'Europe en enfer », le présent retrouve son passé. Il sera notre invité dans la deuxième partie de la Grande Table. Mais d'abord, rembobinons. Palme d'or à Cannes avec l'homme de fer au printemps 81, le réalisateur polonais Andrzej Wajda est décédé dimanche dernier. Ce midi, retour sur l'œuvre d'un grand cinéaste qui a accompagné le combat d'un peuple et porté à l'écran des aspirations universelles. La Grande Table se tweet, se like et se télécharge sur franceculture.fr. Bienvenue sur France Culture.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Retour sur l'œuvre du cinéaste polonais ce midi. Pour commencer, le cinéaste Andrzej Wajda, grande figure du cinéma polonais et européen du XXe siècle de l'après-guerre, puisqu'il a commencé à tourner dans les années 50. Citons L'Homme de Fer, suivi de L'Homme du Peuple, Cendré Diamant ou encore Katyn parmi ses films importants, sans oublier Danton, réalisateur d'une 50aine de films qui plaçait l'histoire au cœur de la conscience morale, ou le contraire, la vérité contre l'histoire officielle. Ces films, en tout cas, font mémoire. Et on va en parler avec nos invités de ces films, mais surtout de l'homme qui était derrière la caméra, l'écrivain, scénariste, metteur en scène Jean-Claude Carrière. Tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, co-scénariste avec Agnieszka Holland de Danton, sorti en France en 1983. Le film français de Wajda avec Gérard Depardieu en Danton face à Robespierre. Le film de Wajda qui a marqué le public français et qui en dit aussi long sur la Révolution française que sur la Pologne des années 80. Depuis, Wajda et vous, vous êtes restés très proches, en tout cas. Et vous allez nous parler de cette complicité qui vous unit. À vos côtés, Jean-Yves Potel, écrivain spécialiste de l'Europe centrale et plus particulièrement de la Pologne. Vous êtes notamment l'auteur de La fin de l'innocence, La Pologne face à son passé juif, un ouvrage paru en 2009. Et vous êtes un bon connaisseur de la filmographie de Wajda. Vous avez vu beaucoup de ses films.
Oui, bien sûr, j'ai tout vu, oui.
Parce que voir ses films, c'est aussi lire un livre d'histoire, en quelque sorte.
Oui, c'est lire un livre d'histoire, mais voir ses films, d'ailleurs, il faut les avoir vus quand ils sont sortis. Parce que j'en profiterai pour dire que c'est très difficile de trouver des DVD de Wajda sous-titrés en français. Mmh. Il y en a très peu. Alors qu'il y a tous ces films aujourd'hui, constituent une mémoire très forte de toute cette histoire, de toute cette période. Oui.
Travail à faire alors de rediffusion et de redistribution.
Et je me souviens que quand j'étais lycéen dans les années 60, on présentait déjà des Wajda dans les ciné-clubs. Et j'avais présenté, je me souviens, Cendre et Diamant, c'était Les Innocents Charmeurs. C'était un film qui m'avait beaucoup charmé, d'ailleurs.
Et voilà, vous avez fait l'lapsus, film, livre.
Et bon, les Cendre et Diamant aussi, d'ailleurs, c'est la même époque.
Enfin, nous entendrons les mots de l'amie et réalisatrice de Repas, Agnieszka Holland, ancienne collaboratrice de Vaïda, sur plusieurs de ses films, actuellement en tournage aux États-Unis. Alors, de quoi? De la prochaine saison de House of Cards, de The Wire, de Cold Case, Mister, parce que Agnieszka Holland travaille aujourd'hui beaucoup sur les séries américaines. Claire Maillot, en tout cas, l'a jointe hier au téléphone et lui a demandé comment s'était faite la rencontre.
Notre collaboration date du début des années 70. André est devenu à l'époque le chef d'une groupe de cinéastes, d'une groupe de la production. Et beaucoup de jeunes cinéastes se sont présentés pour travailler avec lui. Il était leur mentor et le producteur en même temps. Il a voulu voir comment nous, la prochaine génération, nous voyons notre rôle, notre place dans le cinéma polonais, mondial, dans le cinéma tout court. Qu'est-ce que nous avons à dire? Quelle est notre langue? C'était des années 70, la situation politique en Pologne était compliquée, complexe. Ce n'était pas un pays libre. Il y avait la censure. Il y avait aussi assez souvent la pression très forte de la part des autorités communistes. Et il a fallu vraiment créer une espèce de la solidarité pour pouvoir faire passer des contenus, des messages qu'on a voulu passer.
Jean-Claude Carrière, dans la voix d'Agnieszka Holland, Vaïda, non en réalisateur auto-centré sur son œuvre ou sur lui-même, mais bien en chef de file de toute une génération.
Moi, c'est le seul metteur en scène de cinéma que j'ai rencontré dans ma vie, auquel j'ai vu des gens dans les rues de Varsovie baiser la main. C'est-à-dire, c'est très rare qu'un réalisateur de cinéma soit reconnu comme un bienfaiteur public, comme quelqu'un qui, à un moment donné, à représenter la Pologne, et pas pendant très peu de temps, pendant longtemps. Donc on lui était reconnaissant, et c'est une des raisons pour lesquelles il n'a jamais quitté la Pologne, quel que fût le régime. Il a commencé avec des films comme Canal et Cendre et Diamant, par parler de l'époque où la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, pas encore du communisme, et peu à peu, il s'est glissé dans son temps. Il s'est adapté à la censure, à tous les problèmes infini que l'on rencontrait à ce moment-là dans les pays de l'Est. Moi, j'ai travaillé en Russie, en Tchécoslovaquie, en Pologne, donc j'étais très au courant de toutes les ruses qu'il fallait déployer. Et il est devenu plus qu'un metteur en scène. Une fois, j'étais à Paris avec Jean-Luc Godard en déjeuner dans un restaurant, et il est entré. Et j'ai dit à Jean-Luc, tiens, Vaïda qui rentre. Et Jean-Luc m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je vais lui embrasser les genoux.
Wow.
C'était à ce point-là, vous voyez. C'était...
Jean-Luc Godard, justement, dans Histoire du cinéma, qui cite Canal, sorti en 57 en France, de Vaïda, sorti en 56, je crois, en Pologne, comme exemple d'un cinéma national, c'est-à-dire d'un cinéma par lequel une nation s'observe elle-même, Jean-Yves Potel. Il faut revenir effectivement sur cet aspect très particulier de l'œuvre de Vaïda comme cinéaste à la fois du passé, comme l'expliquait Jean-Claude Carrière, mais aussi comme cinéaste du temps présent, cinéaste engagé. Parmi les hommages rendus au cinéaste depuis l'annonce de son décès dimanche, Lech Wałęsa, le leader de Solidarność, dit de lui qu'il était un grand Polonais et un grand patriote.
Oui, je crois que le principal sujet du cinéma de Vaïda, c'est la Pologne et son histoire, sa mémoire, sa vie. Alors, ce n'était pas un nationaliste, loin de là, mais c'était un patriote. C'est quelqu'un qui était très attaché à l'histoire de son pays. Mais l'histoire de son pays, c'était pour lui des questions. C'était une histoire qui était difficile, qui était pleine de contradictions, pleine de difficultés. Et il essayait de toucher à cette histoire, d'y pénétrer en soulevant toutes les questions. Et en ce sens-là, il était presque tout le monde a dit cela aujourd'hui, mais il était vraiment la conscience de la Pologne. Et il était très populaire, il était toujours là. Et bon, moi, je n'ai pas travaillé avec lui, rien du tout, mais je l'ai vu souvent. et je l'ai vu souvent dès les années 80, 70.
Il était conscience morale ou conscience historique ou
les deux, et conscience même, on pourrait même dire quelquefois conscience politique. Mmh. Par exemple, il était là au chantier naval au moment en 80. Il était là au moment de l'état de guerre. Il montait des spectacles dans la clandestinité, enfin semi-clandestinité. Il était là pour à tout moment, et il avait toujours une relation avec le pouvoir qui était difficile, conflictuelle, mais il arrivait à rentrer dans des interstices et à faire passer ces questions sur ce qui se passait, sur cette histoire. Et Canal, par exemple, c'est un film qui raconte la sortie par les égouts de Varsovie de résistants qui sont des héros, mais ils ne sont pas vraiment des héros, c'est des anti-héros, ce sont des personnages qui sont humains. Et donc, ils montrent justement toute cette... C'est une défaite aussi, l'insurrection de Varsovie. Et dans cette défaite, ils montrent ces personnages, comment... Toutes leurs contradictions, et en ce sens-là, il était contre... D'une part, il parlait de résistants dont on ne pouvait plus parler, et en même temps, il posait des questions sur cette insurrection. Et je sens que il était dans l'actualité. Et c'est en 56, c'est au moment où s'ouvre pour la première fois le régime stalinien, et c'est l'octobre polonais.
C'est pour ça que c'est intéressant de qualifier, d'interroger ce qualificatif de patriote, parce que c'est vrai qu'il racontait l'histoire, mais il s'intéressait surtout aux angles morts de l'histoire polonaise. Et à ce rapport charnière entre la vérité et le mensonge, entre ce que peuvent être aussi les silences face à la propagande. Wajda, une histoire filmée de la Pologne, Jean-Claude Carrière, comment est-ce qu'on voyait la Pologne à travers ces films? Qu'apprenait-on avec lui?
D'abord que la résistance, l'opposition et le fait qu'il faut absolument continuer à créer, à faire des films, à écrire des livres, quel que soit le régime auquel on se heurte. Et il a été toute sa vie en lutte. Et on sent ça dans son cinéma, la lutte contre la censure. Moi, je l'ai vu de près, en me disant, est-ce qu'on peut mettre ceci, mettre cela. Quand il a fait Danton, qu'on devait au début tourner en Pologne, et qui, par la suite de l'arrivée de Jaruzelski au pouvoir, a été tourné en France, il tenait beaucoup à mettre dans Danton des allusions à la Pologne. Et on peut voir Danton comme un film sur la Révolution française, et aussi, quelque part, par certains côtés, comme un film polonais. Il avait un éventail très large. Par exemple, il s'intéressait aussi beaucoup, comme moi, à l'enseignement du cinéma. Il a dirigé l'école de Łódź, la fameuse école de Łódź. Comme moi, j'ai fondé la FEMIS et j'ai présidé pendant 10 ans.
Donc... Il en est sorti aussi, de l'école de Łódź.
Il a
créé sa propre école. Donc c'est quelque chose qui nous rapprochait beaucoup. On parlait très très souvent entre nous de l'enseignement du cinéma. Autre chose qui m'a rapproché de lui et qui m'a toujours fait presque rire, je lui avais demandé une fois... Enfin, il est venu, il a été invité au Festival de Cannes. Il a été un des premiers cinéastes de l'Est a été invité au festival de Cannes, je crois que c'était avec Sandre Diamant, il me semble. Oui, oui. Et à Cannes, on lui a demandé quels sont vos cinéastes favoris. Et il a répondu Buñuel. Beaucoup plus tard, il m'a dit, à ce moment-là, je n'avais vu aucun film de Buñuel, mais je savais qu'il était mon maître.
Vous avez évoqué la censure, Jean-Claude Carrière. Quel rapport avait-il justement avec l'État, Jean-Yves Potel, avec le pouvoir et avec la censure? Parce qu'il a quand même dressé à travers ses films des grandes fresques, alors maintenant on peut dire patriotiques, mais pas pour autant dénuées de critiques. Alors comment faisait-il pour faire passer le propos qu'il voulait avoir, sans tout en l'inscrivant dans l'histoire nationale, dans ce récit?
En fait, il faut penser, l'œuvre de Wajda, elle commence essentiellement, principalement à partir de 56, et c'est à partir de 56, en Pologne, le cinéma polonais a une certaine... c'est un cinéma qui est au service du pouvoir, qui est un cinéma de propagande, mais même dans les domaines comme les plus propagandistes, comme le documentaire, il y a toujours eu un espace. Et il y a toujours une certaine possibilité. Et la forme d'organisation, par exemple, qu'a beaucoup impulsé Wajda par groupe de production, qui étaient des groupes collectifs, faisait qu'on pouvait travailler avec une certaine autonomie. Donc il jouait avec la censure. Et il a soutenu toujours le point de vue critique, et il s'est toujours trouvé du côté de ceux qui étaient, disons, dans le camp démocratique par rapport au système. Mais comment il faisait pour le point de vue critique? Je crois qu'il y a un film qui est très intéressant à ce point de vue-là, c'est L'Homme de marbre. L'Homme de marbre, il raconte l'histoire d'une journaliste, qui est une femme, c'est très important. Le rôle des femmes dans le cinéma de Vaida, on pourrait en faire un livre. Il y a d'ailleurs un livre qui a été fait là-dessus. Et cette femme fait une enquête sur un stakhanoviste. Les stakhanovistes, c'est-à-dire, c'est les ouvriers qui ont construit le Staline, qui ont été formés pendant la période stalinienne, qui étaient quasiment des esclaves et qui travaillaient. Et à travers cette enquête qui est menée avec, c'est Christina Yanda qui joue cette femme, on a à la fois le récit des stakhanovistes et puis cette interrogation par cette femme sur ce que c'était que ce monde. Et qui était cet homme. Et il va d'ailleurs suivre ce personnage dans L'Homme de fer ensuite, et même d'une certaine manière dans L'Homme du peuple à la fin de sa vie. Donc je crois que c'est la manière dont il faisait, c'est qu'il introduisait dans ses des personnages, souvent des femmes. Dans Katyn, par exemple, il y a une femme qui est extraordinaire, qui est cette femme d'un officier polonais, et qui refuse tout le temps, tout compromis, et elle est jouée avec une majesté. Qui est très forte dans le film.
Et ben on va écouter une femme, justement, son amie et collaboratrice, Agnieszka Holland, dans les années 70. Elle parle justement du traitement de l'histoire dans la caméra de Vaida.
Il n'a pas traité l'histoire comme une espèce de beaux images qu'on a reconstruit, mais il a pensé comme un dialogue toujours présent, toujours contemporain. Et ça veut dire que ces films sont vivants. Et l'histoire qu'il racontait, c'est une histoire présente, une histoire vivante. Parce qu'il a vraiment cru dans la magie du cinéma, et il a cru qu'en mettant les choses en scène, on crée un monde, et que la présence de ce monde est toujours même, n'importe quand l'action se déroule. Et il a choisi, bien sûr, les moments, il a choisi des histoires, dans grandes histoires, s'actualise constamment. C'était toujours un dialogue avec soi-même, avec sa conscience, avec la société, avec la nation, avec le public, avec le monde.
La magie du cinéma pour recréer un monde, Jean-Claude Carrière.
Beaucoup pour aller dans le sens de ce que vous disiez, c'est Sans anesthésie, ou aussi un film peu connu, discret, qui se passe à l'intérieur d'une famille, avec aussi Christina Yanda, et qui dit beaucoup de choses sans les dire. Parce qu'il y a une chose qui m'a toujours frappé dans l'œuvre de Vaida, c'est son aspect polonais. Nous ne nous rendons pas compte ici que la Pologne est un pays très jeune et très récent. Au 19e siècle, elle a été effacée de l'histoire, au point que, rappelez-vous la dernière phrase de la préface du Burois de Jarry. Quant à l'action qui va commencer, elle se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part. Donc la Pologne retrouve son identité à partir de la guerre de 14-18 et risque de la perdre de nouveau 30 ans plus tard. Donc et Vaida s'acharne sur la Pologne, à travailler en polonais, à maintenir la langue, les traditions, les coutumes, etc. C'est en ce sens aussi qu'une œuvre cinématographique peut, comme une grande œuvre littéraire, marquer un peuple. Marquer l'histoire d'un peuple, marquer un jalon important dans cette histoire.
Alors, Sous anesthésie, juste sorti en 78, film sur lequel Agnieszka Holland a travaillé également aux côtés de Vaida. Jean-Yves Poutet, vous vouliez réagir?
Non, mais je pense qu'effectivement, cette façon de faire par rapport à ce que disait Agnieszka Holland, j'ajouterais qu'il va au fond des questions. C'est-à-dire que quand il aborde l'histoire, un phénomène historique, un moment historique, il prend toujours, ça peut être un détail, mais il va au fond. Il touche là où ça fait mal. Là où les Polonais ont des interrogations et même des fois des oublis, ou ne veulent pas les prendre. Et je crois que la manière, par exemple, dont il a introduit dans son cinéma toute la discussion qui est forte en Pologne sur les relations entre les Juifs et les Polonais pendant la guerre, notamment avec ce film magnifique auquel a participé Agnieszka Holland, et qui est, à mon avis, le plus beau film qu'il a fait sur le sujet, qui est Korczak, où on voit Korczak, c'est-à-dire ce pédagogue qui était dans le ghetto de Varsovie et qui est parti à Treblinka avec ses enfants, et qui est un... Il le montre de ce... Il ne veut pas de ce Korczak qu'on aurait pu faire un... une sorte de martyr. Il montre ce Korczak avec ses enfants, il montre le ghetto, et il a donné, à mon avis, la plus belle image, la plus réaliste et la plus forte du ghetto de Varsovie.
Et pourtant, avec Korczak, il y a quand même eu une violente polémique après la diffusion de son film en France. Beaucoup lui ont reproché d'exonérer la Pologne, le rôle
non,
de la Pologne
non,
dans
je
le
dirais
massacre
qu'il y a,
des Juifs. Il y a eu une frange, en tout cas,
oui,
protestataire.
Ça, c'est un autre débat. C'est un débat qui m'a toujours rendu très triste, parce que je crois qu'on a accusé Vajda plusieurs fois dans plusieurs de ses films d'être antisémite ou de favoriser l'antisémitisme, ne pas parler, dénoncer l'antisémitisme. Ce qui est totalement absurde du point de vue du personnage et qui même, en ce qui concerne les films, est faux. Et c'est un phénomène qui a été, qui l'a beaucoup blessé. À chaque fois que je le voyais en France, je l'ai vu beaucoup en Pologne, à chaque fois que je le voyais en France, et qu'il y avait cette question qui affleurait, je sentais très bien à quel point c'était douloureux pour lui. Par exemple, quand il est venu présenter Katyn. Katyn, c'est un drame qui se passe en mars 1940. Donc on n'est pas au cœur de la Shoah. La Shoah, c'est plus tard. Mmh. Et un journaliste français l'a attaqué parce qu'il ne parlait pas de la Shoah. Mmh. En disant, ah, vous voyez bien. Bon, c'est absolument incroyable.
Oui, sur la Terre de la Grande Promesse aussi.
Bon, et la Terre de la Grande Promesse, c'est un film sur... qui d'abord, le clivage principal, c'est un clivage c'est une naissance du capitalisme polonais. Alors on voit le capitalisme polonais, comment il traite les ouvriers. Le capitalisme polonais, ce sont des capitalistes polonais, allemands et juifs. Mais les ouvriers, ce sont aussi des polonais et des juifs. Et donc on voit dans ce film plutôt une opposition entre les ouvriers, et disons c'est un film qui montre plutôt la lutte des classes dans la montée du capitalisme. Et on l'a traité exclusivement, alors que comme une relation entre les Juifs et les Polonais, alors que ce film était un des premiers films, sinon le premier, de cette importance dans le cinéma polonais, qui remettait les Juifs dans le cinéma polonais.
Voilà, vous lui rendez justice aujourd'hui, Jean-Yves Potel, vous, l'écrivain, historien, mais aussi l'auteur de La fin de l'innocence, la Pologne face à son passé juif. On a parlé de Wajda, de son regard sur l'histoire de son pays. Parlons juste aussi un peu du cinéaste engagé dans son époque, aux côtés de Solidarność. On va quand même écouter un extrait, et on va entendre sa voix ensuite, de L'homme de fer, le film pour lequel il a eu la Palme d'Or à Cannes, en 81.
No to tak przeniesiesz.
To przeniesiesz głowę.
Dobra, fajnie. Dobra. O, i króciutko to zrobimy. Uwaga. Kamera. Stop.
Moim zdaniem to jest dobrze, żeby pracować w pewnym takim napięciu.
À mon avis, il est bon de travailler dans un état de tension nerveuse. L'énergie dont nous rayonnons pendant le tournage se transmet à la pellicule. Et en fin de compte, elle atteint le spectateur qui voit un film tourner fiévreusement. Je crois que ce n'est pas une mauvaise méthode. En tout cas, moi, je ne sais pas travailler autrement. Cela dit, nous travaillerions plus lentement. Nous ne serions pas si pressés, sans ce sentiment que chaque jour éloigne peut-être ce film de la victoire. Je crains que d'un jour à l'autre, il puisse se créer une situation dans laquelle il sera très difficile de montrer ce film et de se battre pour lui. Il faut que L'homme de fer soit fini le plus vite possible. Les gens l'attendent.
Faktem jest, tak jak powiedziałem pierwszego dnia, że zwyciężymy i zwyciężyliśmy. Taka jest krótka prawda.
Powiedziałem, ja wychodzę ostatni, tak zrobię i wyjdę ostatni.
Bóg zapłaci, ja idę do pracy. Do zobaczenia.
Jean-Yves Potel, Jean-Claude Carrière, un mot sur ce film, L'homme de fer, qui sera suivi par L'homme du peuple, moins agéographique, hein, dites-vous, Jean-Yves Potel, envers Lech Wałęsa.
Il a fait ce film pendant la période de Solidarność. Il a commencé. On est au chantier naval de Gdansk. Et bon, c'est un film qui était à la gloire de la grève. Personnellement, je trouve que c'est pas le meilleur film qu'il ait fait. Je trouve que je préfère de loin, sur le même sujet, L'homme du peuple, que je trouve plus réussi parce que, justement, il met Wałęsa dans une situation où il discute avec une journaliste et il est à la fois formidable, ce Wałęsa, mais aussi il a des côtés un peu odieux. Enfin, on voit un peu la réalité de ce que c'est. C'est un peu comme le Danton de
le Danton. Le Danton, voilà. Le Danton.
C'est presque ça. Moi, je voudrais dire aussi qu'il y avait la fièvre du tournage, oui, qui lui était, c'est vrai, presque indispensable. Mais Andrzej était quelqu'un qui venait des Beaux-Arts. Hein, il savait parfaitement, il avait fait les Beaux-Arts, il dessinait très bien, il était un des très rares metteurs en scène avec Kurosawa qui savait vraiment dessiner. Donc il préparait très soigneusement ses films. Ça, je l'ai vu au travail, et même quelquefois dessiner entièrement certaines séquences lui-même. Donc il y a à la fois une fièvre du tournage qu'il faut entretenir pour maintenir cette tension constante dont il avait besoin, mais tout cela repose sur une préparation très sérieuse.
Un mot de son style, justement, comme cinéaste, Jean-Claude Carrière. On a beaucoup employé les termes romantisme, héroïsme pour qualifier son cinéma.
Non, je dirais que c'est un cinéma fougueux. Romantisme, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce qu'il n'a jamais traité d'histoire d'amour que nous appellerions romantique. C'est un cinéma fougueux, impétueux, directement engagé, qui prend des risques, toujours, que ce soit à propos de tel ou tel, quel que soit le sujet qu'il aborde, c'est un sujet borderline, nous dirions aujourd'hui. Vous voyez, et même Danton. Parce que même Danton en France a suscité des controverses.
Eh bien justement, un extrait de Danton et on en reparle parce qu'en France, on connaît surtout Angel et Vaïda pour son Danton. Extrait avec cette scène mythique, scène d'opposition entre Danton et Robespierre.
Qu'est-ce que tu veux de moi ?
Ce ton direct me plaît. Tu vas publiquement annoncer que tu te rallies à nous, Georges.
Impossible.
Pourquoi ?
Parce que je n'approuve pas le gouvernement. J'ai le droit.
Mais pas le droit d'en faire état. Surtout pas toi.
Mais tu veux quand même pas que je me rabaisse devant eux, non?
Tu te crois au-dessus du gouvernement?
Tout individu exceptionnel est supérieur à la masse. Je méprise les comités autant que toi tu les méprises, seulement moi je le dis. Personne ne doit nous diviser, Maximilien. Personne. Aucun comité, aucun gouvernement, personne! Méfie-toi, séparés, nous tomberons tous les deux. Et si tu continues avec la terreur, je ne pourrai pas te suivre. Et d'ailleurs, personne ne te suivra. Et le peuple qui nous a portés déchirera la révolution.
Alors, avec ce film, Vaïda désacralise presque la révolution. Il participe, il est presque un historien de la Révolution française avec ce Danton. Il participe à l'historiographie de cette période de l'histoire française. Écho très fort en France de ce film et écho très fort aussi en Pologne. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer pourquoi. Vous avez été co-scénariste, Jean-Claude Carrière, sur ce
oui,
film.
Oui, j'avais souvent refusé de faire un film sur la Révolution française, d'écrire avec un réalisateur français. J'ai toujours été très attiré par le regard étranger. Quand on m'a proposé de faire Danton avec Angé, j'ai tout de suite dit oui. C'est d'autant plus que cela reposait sur une pièce polonaise écrite dans les années 20-30 par une femme qui s'appelait, j'ai retenu son nom, Stanislava Przybyszkaja. Ce n'est pas si facile.
Bravo. Mais c'est vrai qu'il s'est beaucoup inspiré de livres, de la littérature.
C'est une femme qui était tombée amoureuse de Robespierre longtemps après. Donc toute sa pièce était pour écraser Danton. Il a adapté cette pièce au théâtre d'abord en Pologne, en la raccourcissant beaucoup, elle faisait 8 heures je crois. Et ensuite m'a proposé le texte de cette pièce. Donc au départ il y a une femme. Et c'est très important parce que elle a très bien senti qu'il y avait, en tout cas, deux groupes. Un autour de Danton avec Camille Desmoulins, etc. L'autre autour de Robespierre avec Saint-Just, qui étaient comme deux groupes d'amoureux. Enfin, qui étaient comme deux groupes qui, il y avait des relations sentimentales qu'il est le premier à avoir senti. Le premier et avant lui, elle, Stanislava. Donc ça, on a essayé de le garder tout au long du film. Le film a été discuté comme il est tout à fait normal, parce qu'on a l'impression, quand on fait un film d'histoire, qu'on juge les personnages historiques. Pas du tout. On essaie de les comprendre d'une certaine manière, et surtout de voir, d'écouter ce qu'ils pourraient nous dire aujourd'hui. Pour cette scène-là, qui était la seule scène dans le film où les deux personnages se rencontrent, parce que Pchoniak, l'acteur polonais qui jouait Robespierre, ne parlait pas français. Donc, on a répété cette scène dans l'appartement de Vaïda à Paris pendant 3 week-ends avec uniquement le chef opérateur, les deux comédiens, Vaïda et moi. Avant d'arriver, et pendant ces répétitions, on a trouvé des choses. Et Gérard et moi en particulier, le moment où il prend la tête de sa tête et lui dit, tu sens, il prend la main de Robespierre, la pose sur son cou et lui dit, j'avais dit à Gérard, tu sais, une chose est de condamner quelqu'un à mort, l'autre chose est de le tuer soi-même. Ce sont deux choses différentes. Il a parfaitement compris.
Jean-Yves Patel, il nous reste 3 secondes. L'écho de ce film en Pologne ?
Je pense que ce film, c'est un peu un regard aussi. Je crois il y a ce regard sur la Révolution française, mais c'est aussi un regard sur l'opposition entre Solidarność qui vient d'être battu et puis le général Jaruzelski. Alors, je ne dis pas que c'est une transcription.
Qui est au pouvoir.
Qui vient au pouvoir, mais c'était cette opposition qui a joué. Et il y a beaucoup de d'écho de ça. Ça va depuis des files d'attente jusqu'à la manière dont on voit la police, dont on voit les discussions, les oppositions. Et je crois que c'est pour ça ce film a été aussi perçu comme un film de réflexion sur l'expérience de Solidarność.
Voilà, même si lui disait qu'il n'avait pas la volonté à travers ce film de parler de son pays à travers Danton, mais quand même écho très important. Merci beaucoup messieurs, un peu connu du grand public, sauf en Pologne bien sûr, mais multi-consacré par le milieu du cinéma. Andrzej Wajda, Oscar pour l'ensemble de sa carrière en 2000, Ours d'or en 2006, Ours d'argent pour sa contribution au cinéma en 96 à Berlin, Palme d'or en 81, on le disait pour L'Homme de fer, Lion d'or à Venise en 98, César du meilleur réalisateur pour Danton en 83, Wajda, un cinéaste polonais, mais aussi un cinéaste à la reconnaissance internationale. Merci beaucoup à tous les deux.